Vous écoutez On lit pour vous.
Libérer la parole citoyenne face à une école qui va mal. Un texte de Jean Trudel, paru le 15 novembre 2024 dans Les nouveaux cahiers du socialisme. L'école québécoise va mal. En témoignent d'innombrables lettres aux médias à chaque rentrée scolaire. La désertion de la profession dans les 5 premières années d'environ 20 % des nouvelles enseignantes et enseignants, la grève et la mobilisation importante des enseignantes et enseignants à l'automne 2023, ainsi que les cris d'alarme nombreux et récurrents de spécialistes, observatrices et observateurs de l'éducation. Dans un documentaire d'Éric Simon, « L'école autrement », Guy Rocher laisse tomber cette phrase terrible « J'ai honte de ce qu'est devenue l'école québécoise ». Ce grand sociologue, l'un des architectes du rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, le fameux rapport Parent, commentait alors l'iniquité de notre système scolaire. Pendant ce temps, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, CAQ, totalement imperméable à ses appels de détresse, fricote et pilote sans vergogne des projets de loi décriés par le milieu. Les consultations sont factices et les résistances organisées totalement ignorées, à l'instar de la levée de boucliers provoquée par le projet de loi 23, finalement adopté le 7 décembre 2023, qui retire au Conseil supérieur de l'éducation sa mission de veiller à la qualité de l'ensemble du réseau d'éducation québécois, qui accroît une centralisation administrative déjà exagérée et qui crée un institut d'excellence dont plusieurs craignent qu'il ne vienne dicter des pratiques pédagogiques censées relever de l'autonomie professionnelle. Cette détérioration à petit feu de l'école publique dure depuis trop longtemps. Pour faire le point et organiser une réflexion large sur la situation, le regroupement citoyen Debout pour l'école a lancé, au printemps 2023, une vaste consultation populaire « Parlons éducation » sur l'état de l'éducation un peu partout dans la province, conjointement avec 3 autres groupes citoyens « Je protège mon école publique », « École ensemble » et « Le mouvement pour l'école moderne et ouverte », MEMO, et avec l'appui d'une 50aine d'organisations partenaires. Dans le but avoué de libérer la parole citoyenne, Parlons éducation s'est décliné en une 20aine de forums organisés dans 18 villes du Québec. À cela s'est ajoutée la tenue de rencontres destinées spécifiquement aux jeunes, à partir d'un guide conçu par un comité jeunesse et reprenant les grandes lignes du matériel proposé dans les forums. Il s'agissait d'un véritable pari, basé sur la conviction que des échanges sur la situation étaient nécessaires et souhaités par un nombre élevé de personnes interpellées par la condition de notre système éducatif. Pari gagné. À partir d'un document de participation, plus de 1000 personnes ont participé à une 50aine d'ateliers entre mars et juin 2023, consacrant un vendredi soir et un samedi entier à discuter des 5 thèmes proposés : la mission de l'école, l'iniquité actuelle du système scolaire, le sort réservé à certaines populations laissées pour compte, les conditions dégradées d'exercice et de travail des personnels et la démocratie scolaire. Parallèlement, plusieurs centaines de jeunes s'exprimaient aussi sur les mêmes sujets. Au-delà d'une participation importante à ces forums et aux ateliers jeunesse, il faut souligner la qualité des interventions et la richesse des échanges. Même si les constats avérés par l'exercice sont loin d'être reluisants, le fait de pouvoir les partager, d'en discuter les causes et les conséquences, a eu, entre autres, l'effet de raviver l'espoir qu'il se passe quelque chose en éducation. De graves problèmes. Dès la conclusion des forums et ateliers jeunesse, une équipe de 5 personnes s'est attelée à produire la synthèse du millier de pages de transcription des échanges. Rendu public le 6 décembre dernier, le portrait qu'elle trace de notre école est désolant. Il y a longtemps que la mission de l'école n'a pas été revue et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un débat public. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa déclinaison actuelle, instruire, socialiser et qualifier, n'est pas comprise de la même manière par tout le monde. La dimension qualification semble avoir pris trop de place ou ne couvrir que la formation de la main-d'œuvre future. Le terme « instruction » fait l'impasse sur l'éducation et l'interprétation de « socialiser » est pour le moins variable. Or, à l'heure où de grands bouleversements sociaux sont en cours, dérèglement climatique, omniprésence du numérique, désinformation, développement fulgurant de l'intelligence artificielle, pour ne nommer que ceux-là, ne serait-il pas opportun de faire le point sur ce qu'on attend de l'école? Ne serait-il pas impératif de rebâtir un consensus social sur la mission de l'école et de la recentrer sur l'élève, selon une visée de développement personnel, d'ouverture sur les enjeux de société, d'émancipation et de formation citoyenne critique? Cela favoriserait certainement une meilleure synergie de l'ensemble des intervenantes et intervenants en éducation et permettrait de mieux juger de l'adéquation avec les moyens consentis au système scolaire. À propos de l'iniquité actuelle du système scolaire, les participantes et participants en avaient long à dire. Déjà dénoncé par le Conseil supérieur de l'éducation dans son rapport de 2016, la segmentation des populations étudiantes de l'école québécoise semble s'être accentuée si l'on se fie aux nombreux témoignages recueillis. Les effets sont délétères. Cette réalité est beaucoup plus prégnante dans les grands centres. Avec la présence d'écoles privées subventionnées et le foisonnement de projets particuliers sélectifs à l'école publique, le système québécois est devenu un véritable marché scolaire où règne le culte de la performance. Comme le soulignent plusieurs, il s'agit d'un cercle vicieux. Complètement privé de la possibilité d'une saine émulation entre pairs et aux prises avec une concentration indue de cas lourds, l'école publique, qui assume seule toutes ces classes qu'on dit maintenant « ordinaires », suffoque et ne peut plus assurer l'égalité des chances de réussite aux enfants qui la fréquentent. Les parents craignent d'y envoyer leurs enfants et font tout pour les inscrire ailleurs, ce qui accentue le problème. On parle déjà de sélection à la fin du primaire. La course effrénée à une prétendue meilleure école, avec ce que cela suppose de stress pour les parents comme pour les enfants, est-ce bien ce que nous voulons comme système éducatif? Le document de participation au forum faisait aussi état de nombreuses populations scolaires laissées pour compte dans le système actuel. Dans ce domaine, les problèmes sont connus depuis longtemps. Les ateliers ont permis de confirmer qu'ils perdurent. Le manque de moyens, en particulier l'insuffisance de personnel spécialisé pour venir en aide aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, EHDAA, est criant. Alors que le nombre d'enfants présentant des problèmes particuliers a explosé au Québec depuis une quinzaine d'années, un phénomène dont le gouvernement ne semble pas s'inquiéter. La trop grande proportion d'élèves en difficulté dans les classes régulières, le manque de services de soutien, le temps grugé par les formalités administratives liées à l'évaluation des cas, tout cela s'ajoute aux différents obstacles à surmonter pour répondre adéquatement aux besoins des élèves. Il y a aussi peu de ressources et de soutien pour garantir la reconnaissance, la valorisation et l'inclusion des savoirs, des valeurs et des points de vue des Premières Nations et des Inuits dans le système scolaire. Dans les régions où la présence autochtone est importante, il s'agit d'une réalité bien concrète qui constitue un frein puissant à l'intégration scolaire des élèves. Même si beaucoup d'efforts ont été mis pour accueillir les élèves nouvellement arrivés au Québec, des accompagnements additionnels demeurent nécessaires. On insiste, par exemple, sur l'importance d'assurer l'accès à des cours de francisation gratuits et prolongés pour les enfants, mais aussi pour leurs familles, et de fournir les ressources nécessaires au bon fonctionnement des classes d'accueil et à la mise en œuvre de mesures favorisant la mixité interculturelle. Le peu de valorisation de la formation professionnelle, FP, constitue un obstacle important à la scolarisation de nombreux jeunes qui auraient de l'intérêt pour des formations diplômantes dans une grande variété de métiers utiles et bien rémunérés. Ils pourraient trouver dans cette filière, c'est déjà le cas pour certains secteurs, la motivation à persévérer dans leurs études ou pour raccrocher. L'importance de la formation générale des adultes, FGA, a aussi été mise de l'avant comme seconde chance pour des élèves en difficulté au secondaire, pour des décrocheuses ou décrocheurs, ou pour tout adulte qui a besoin de formation générale pour acquérir des connaissances et des compétences de base. La FGA mérite plus de reconnaissance et de moyens pour lui permettre de jouer le rôle spécifique et nécessaire qui lui est dévolu dans le système éducatif. Vous écoutez « Libérer la parole citoyenne face à une école qui va mal », un texte de Jean Trudel, paru le 15 novembre 2024 dans Les Nouveaux Cahiers du Socialisme. Les critiques nombreuses faites aux conditions d'exercice et de travail de la profession enseignante ne surprendront personne. L'appui de la population aux grèves de l'automne 2023 dans le cadre des négociations des conventions collectives du secteur public montre que la situation est connue du grand public. Dans les forums, plusieurs enseignantes et enseignants ont illustré par des exemples bien concrets ce qu'est devenu leur métier. Une reddition de comptes beaucoup trop lourde qui restreint l'autonomie professionnelle, la lourdeur de la tâche, la place énorme de l'évaluation au regard du temps nécessaire pour l'apprentissage, le trop grand nombre d'élèves en difficulté dans les classes, la précarisation des emplois et des conditions de travail, autant d'éléments qui se résument en un unique cri du cœur. Il n'y a pas d'espace pour s'occuper vraiment des élèves. Les commentaires débordent largement la seule situation de l'enseignement. On a notamment soulevé de façon récurrente l'insuffisance des différents personnels d'appui à l'enseignement. Les écoles doivent composer avec un manque de psychologues, d'orthophonistes et d'employés de soutien. Inutile de dire que les services aux élèves en pâtissent, ce qui augmente d'autant la tâche enseignante. Sur la démocratie scolaire, finalement, les participantes et les participants en avaient aussi beaucoup à dire. Sans doute faut-il éviter de généraliser trop rapidement, mais on a rapporté à de nombreux endroits que les conseils d'administration des centres de services scolaires, CSS, se comportent souvent comme des chambres d'écho de décisions prises en amont. Les conseils d'établissement fonctionnent mieux, mais leur pouvoir d'orientation et de décision est très limité. Si l'ancien modèle des commissions scolaires présentait des défauts, l'abolition de celle-ci par la loi 40 en 2020 a empiré les choses. Et la récente loi 23, qui donne davantage de pouvoir aux ministres sur les directions des CSS, ne va certainement pas améliorer la démocratie scolaire. L'existence d'une forme d'omerta dans le milieu scolaire a, par ailleurs, été plusieurs fois dénoncée dans les échanges. Peut-être basée en partie sur une fausse conception du devoir de réserve, mais sûrement entretenue par une peur bien réelle de représailles, les artisans du monde scolaire n'osent pas dénoncer les situations problématiques qu'ils observent. Dans au moins deux régions du Québec, une directive interne aurait d'ailleurs circulé de la part de la direction des CSS pour déconseiller la participation de membres du personnel au forum Parlons éducation. Le thème de l'éducation est large et plusieurs sujets n'ont pas pu être traités directement dans les ateliers des forums. Mais les échanges ont été émaillés de nombreuses références à la tyrannie de la gestion axée sur les résultats, incompatible avec un milieu éducatif et porteuse de dérives dans le fonctionnement des écoles, à l'obsession de l'évaluation, à la nécessité de valoriser le français et les compétences langagières sous toutes leurs formes, ainsi qu'au problème des surdiagnostics et de la médicalisation qui ont cours dès la petite enfance, pour ne nommer que ceux-là. Que faire? Il y aura eu, en dernière analyse, bien peu de controverses dans ces forums, tant ont pu émerger sur chaque sujet des consensus spontanés. Mais au-delà du tableau déprimant que l'exercice a brossé de l'école québécoise, il faut souligner l'appétit des participantes et des participants pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'on trouve le moyen de forcer la mise en œuvre de changements à apporter au système scolaire. Plusieurs orientations et éléments de solutions ont d'ailleurs été proposés lors de ces rencontres. Que faire face à un gouvernement téflon qui prend systématiquement les choses par le mauvais bout? Qui, par exemple, cherche éperdument du nouveau personnel sans se préoccuper des causes de cette défection? Qui, en contradiction flagrante avec son discours, centralise les pouvoirs et refuse d'écouter la parole citoyenne? La réflexion sur ces questionnements a commencé avant même la fin des forums citoyens. Ces derniers ont pu permettre d'avaliser l'état des lieux. Il faut, dans une deuxième phase, dégager un consensus sur les chantiers les plus urgents à mettre en place et se centrer sur la formulation des solutions les plus pressantes pour que l'école québécoise soit véritablement équitable et émancipatrice. Une tâche moins simple qu'elle n'y paraît, il est plus facile de s'entendre sur les problèmes à dénoncer que sur la nature des solutions à préconiser. C'est tout de même à élaborer une telle démarche que s'est attelé le collectif citoyen Debout pour l'école, tout de suite après les forums. Le collectif s'est d'abord restructuré, embauchant un coordonnateur à plein temps et se dotant d'un comité directeur d'une douzaine de personnes qui a établi un plan de travail. Dans une première étape, des groupes constitués, communautaires, citoyens, syndicaux, seront invités, à partir de la synthèse des forums, à formuler les changements qu'il faudrait apporter au système scolaire, en ciblant les plus pressants d'entre eux. Qu'est-ce qui devrait être entrepris au premier chef pour que le système éducatif québécois puisse véritablement offrir à tous les enfants une éducation de qualité, inclusive et émancipatrice? À partir d'un outil d'animation, tous les groupes seront conviés à participer à cette démarche. Des comités régionaux sont déjà à pied d'œuvre pour susciter des rencontres régionales autour de cette question. Le comité directeur de Debout pour l'école fera ensuite la synthèse des commentaires et propositions reçues pour élaborer une déclaration qui, en plus de cerner concrètement des priorités, étayera et argumentera solidement chacune d'elles. L'idée générale est d'obtenir, ultimement, un appui formel d'une part importante de la société civile. Il faut rappeler qu'une cinquantaine d'organisations avaient positivement répondu pour appuyer la tenue des forums citoyens. Cette fois, elles seront sollicitées pour un appui politique aux revendications principales qui seront retenues. Un rendez-vous national. Il y a fort à parier cependant que l'obtention d'un consensus, même très large, sur l'urgence de mettre en place quelques chantiers prioritaires en éducation au Québec ne suffira pas à influencer un gouvernement qui n'écoute personne. Depuis des lustres, au Québec, on gère l'éducation, devenu un poste budgétaire parmi d'autres. L'impulsion à ne considérer l'éducation que sous l'angle de la productivité a été donnée par François Legault lui-même, alors ministre de l'Éducation, au début des années 2000. Depuis, à coup de plans de réussite, la préoccupation pour la quantité de jeunes diplômés a largement pris le pas sur celle de la nature et de la qualité de l'éducation qu'elles et ils reçoivent. L'éducation vue comme capital individuel à développer dans un monde de concurrence, le paradigme foncièrement néolibéral, a fait son chemin. Pourquoi dès lors s'embarrasser de réflexions ou de débats sur le bien commun? Ce cadre idéologique est d'autant plus alarmant que pour entreprendre avec succès des réformes progressistes, il faut, au préalable, prendre le temps et les moyens d'obtenir des consensus sociaux. À titre d'exemple, citons le cas du financement de l'école privée. Combien de parents de la classe moyenne, attachés à l'idée que l'élitisme sert les intérêts de leurs enfants, combattraient avec vigueur le plan du groupe citoyen École Ensemble et l'idée même d'une école commune? S'il est possible qu'une déclaration commune sur l'avenir de l'école québécoise soit élaborée et qu'elle rassemble suffisamment d'appui, il faudra donner à la publication d'une telle déclaration toute l'envergure nécessaire. C'est la raison pour laquelle Debout pour l'école pense organiser en 2025 un grand rendez-vous national sur l'éducation dans le but de lancer publiquement cette déclaration et d'exiger du gouvernement qu'il y donne suite. Un tel rendez-vous pourrait constituer une pression politique importante et mettre de l'avant des idées essentielles à une petite année des élections provinciales, tout en se faisant le porte-voix de la nécessité d'agir en éducation. Cela pourrait être aussi un lieu d'échange privilégié sur des problématiques qui, tout en étant importantes, n'auront pas trouvé leur chemin vers les éléments essentiels d'une déclaration. Outre « Debout pour l'école », plusieurs groupes militent au Québec pour une meilleure éducation. Rappelons qu'École Ensemble, le mouvement pour une école moderne et ouverte et Je protège mon école publique étaient aussi impliqués dans l'organisation des forums. L'existence de ces groupes, le succès des forums citoyens Parlons éducation, l'ampleur des grèves enseignantes du secteur public et le soutien qu'elles ont reçu, tout cela laisse entrevoir qu'une importante mobilisation provenant de la base pourrait se constituer en faveur d'une refonte progressiste de l'école québécoise. C'est ce qui donne espoir et ce à quoi Debout pour l'école entend travailler au cours des prochains mois. C'était « Libérer la parole citoyenne face à une école qui va mal », un texte de Jean Trudel, paru le 15 novembre 2024 dans Les Nouveaux Cahiers du Socialisme.
Les bénéfices de la sieste et autres nouvelles santé. Un texte de Camille Lorrain-Desjardins paru le 16 janvier 2024 dans le magazine Châtelaine. Les récentes découvertes sur les bénéfices du sport et du sommeil et le nombre d'ordonnances d'antidépresseurs en augmentation au Québec. Petit dodo, gros cerveau. Le volume du cerveau des personnes qui font régulièrement une sieste est plus gros que celui des gens qui passent la journée sans fermer l'œil, ont constaté des chercheurs du University College de Londres et de l'Université de la République à Montevideo, en Uruguay. et la chose n'a rien d'anodin. Plus le volume de notre cerveau est important, meilleures sont nos capacités cognitives, comme l'attention et la mémoire. Selon les chercheurs, les siestes compenseraient les effets indésirables d'un mauvais sommeil nocturne, comme la dégénérescence des cellules du cerveau. Il rappelle que celui-ci rétrécit de 0,2% par année après l'âge de 35 ans et de 0,5% par année après 60 ans. Selon leurs calculs, les adeptes de la sieste pourraient avoir un cerveau d'environ 2 à 6 ans plus jeune que les autres. Et nul besoin de passer l'après-midi au lit. Une sieste de 5 à 15 minutes suffit. Au dodo. Une pilule au lieu d'un psy. Depuis 2018, le nombre d'ordonnances d'antidépresseurs a grimpé de 20 % au Québec. La pandémie de COVID-19 a sans doute joué un rôle dans cette augmentation, mais elle n'est pas la seule en cause, estime Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. « Nous n'avons pas mesuré toutes les variables, » dit-elle, « mais le manque d'accès à la psychothérapie est certainement, lui aussi, un facteur très important. » Selon l'Ordre, il manquerait actuellement 1 000 psychologues dans la province, une donnée qui concorde avec ce que prévoyait le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en 2019. La docteure Groux, psychologue clinicienne et neuropsychologue, rappelle que le traitement de choix contre la dépression et l'anxiété est la médication couplée à une psychothérapie, cette dernière ayant des effets plus durables. Le pouvoir refroidissant du sport. On le sait, pratiquer des activités physiques permet de mieux nous sentir, tant dans notre tête que dans notre corps. Mais faire du sport pourrait aussi nous aider à affronter les changements climatiques, car cela augmente notre tolérance à la chaleur, ont découvert 2 chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université de Canberra, en Australie. Comment cela s'explique-t-il? En adoptant un mode de vie sain et en bougeant régulièrement, on incite le corps à hausser sa production de sueur, notamment. Et puisque la transpiration a pour fonction de réguler la température corporelle, plus on transpire, mieux on résiste à la chaleur. L'activité physique a également pour effet d'accroître notre réserve cardiovasculaire, c'est-à-dire la capacité du cœur à augmenter sa performance en réponse à un stress. Encore là, cela permet de mieux tolérer les chaleurs excessives. On bouge? C'était « Les bénéfices de la sieste et autres nouvelles santé », un texte de Camille Lorrain-Desjardins paru le 16 janvier 2024 dans le magazine Châtelaine.